que je voulais dire à propos de ce texte, simplement pour ouvrir la discussion, c'est qu'il est un peu hybride, ce qui peut à la fois être sa qualité et sa faiblesse, c'est-à-dire que je l'ai conçu à la fois comme une intervention dans les problèmes politiques et intellectuels de notre époque, et en ce sens, il est parfois ironique, non pas polémique envers des personnes, mais peut-être envers des attitudes ou des idées. Et en même temps, c'est quand même le fruit de 35 ans, qui a été jalonné par plusieurs publications, mais c'est le fruit d'une réflexion sur l'histoire des formes politiques, que je réduis à quatre, comme l'avait fait Renan dans sa célèbre conférence, la tribu, la cité, l'empire et la nation, et ma propre approche de la double nature de la nation, politique et culturelle, ethnoculturel ou culturel, et avec ce qui nous donne la possibilité non pas de savoir de quand date la nation culturelle, c'est très flou, depuis que le mot existe en latin, on y a rangé tellement de choses dans cette boîte nation que nous avons un objet extrêmement difficile à saisir, mais tout de même utile pour parler de certaines réalités ou décrire certains faits historiques, et à partir de la nation comme forme politique créée à la fin du XVIIIe siècle, nous avons un repère chronologique relativement précis et, je commence, peu contestable, ne serait-ce que parce qu'il a été créé simultanément dans deux univers culturels, certes occidentaux, mais différents, qui sont l'un les États-Unis et l'autre la France de la Révolution. Donc, à partir de là, je peux aussi m'interroger sur ce qu'est le nationalisme en proposant ma propre approche, sinon théorie, qui emprunte évidemment à certains auteurs qui sont beaucoup cités, comme pas Renan d'ailleurs, puisque Renan s'intéresse plutôt à la nation qu'au nationalisme, mais on peut dire qu'indirectement il s'oppose quand même à une forme de nationalisme particulier qui est la forme du nationalisme allemand à l'époque, car la grande période d'essor du nationalisme allemand, c'est le 19e, le début du 20e siècle, c'est plutôt sa dégénérescence en impérialisme raciste. Donc nous avons Renan, mais nous avons aussi des auteurs du monde académique comme Kedouri, Gellner, Anderson, qui ont proposé leurs approches que je critique dans ce livre. C'est la partie la plus académique que je critique, tout en retenant certaines parties pour proposer ma propre lecture du nationalisme après mon analyse historique de la nation. Cette lecture étant ayant pour volonté, et là on est tout à fait à l'opposé de ce que j'appellerais la polémique contre le nationscepticisme, la nationphobie ou l'obsession du post-national aujourd'hui, puisque j'essaie au contraire de proposer une définition la moins polémique possible, c'est-à-dire qui convienne aussi bien à un nationaliste qu'à un antinationaliste, et à quelqu'un qui croit à l'avenir des nations qu'à quelqu'un qui croit à leur déclin ou disparition. Et c'est en effet la volonté, au fond, d'aboutir à une forme de conciliation, coïncidence ou superposition de la nation politique et de la nation culturelle. Telle est, dite le plus simplement possible, mon approche du nationalisme. Alors, avec une approche aussi générale, nous pouvons remarquer que ni la nation et ni même le nationalisme, contrairement à son emploi très particulier et très provincial en France, ne sont en soi évidemment ni un bien ni un mal, ce sont des outils, des instruments, des formes. En anglais, on dirait, je dis forme politique parce que le terme anglais de polity n'est pas très, très, très facile à transposer en français. Donc voilà en gros la colonne vertébrale de ce livre, avec toute une série de questions qui en découlent sur quel est le monde dans lequel nous vivons, est-ce que c'est vraiment un marché global dans lequel les nations, les États et les États-nations vont disparaître. Est-ce que c'est plutôt un système mercantiliste, c'est mon hypothèse, qui est instauré ou qui se maintient parce qu'il fait l'affaire de certains acteurs étatiques ou privés ou relevant du monde de l'entreprise multinationale. Donc voilà un exemple, un autre exemple peut-être des questionnements auquel on peut aboutir, ce serait une interrogation sur la nature de l'Union européenne comme forme politique, sur son rapport avec l'existence de nations, sur sa finalité, est-ce qu'il s'agit de devenir une super nation ou une nouvelle forme d'empire ou une fédération, mais même une fédération, l'Union européenne ne rentre pas dans les critères de ce qu'est une fédération, si nous prenons les exemples existants, pour faire court, les États-Unis ou la Suisse. Beaucoup des prérogatives de cette fédération, elle ne les a pas, de ces fédérations, et elle en a certaines qui seraient exorbitantes dans ses propres pays. Donc vous voyez que nous sommes bien dans un cas historique différent, donc c'est encore une des questions qu'on peut tirer du sujet tel que je l'aborde. Comment sortir de l'énigme ou de la charade suivante? Jacques Delors avait dit « L'Union européenne est un objet politique non identifié », le problème étant que jusqu'à présent, il a surtout été un objet non identifié politique. Avec le paradoxe ironique et l'imprévisible, sinon au moment où j'écrivais, c'est aujourd'hui prévisible, mais au moment où j'avais commencé à écrire ce livre, pas forcément prévisible, qui est que les Britanniques qui eux-mêmes voulaient de cet objet définitivement non politique n'en sont pas moins sortis, après avoir vu leur conception largement gagnante. Donc tout cela quand même peut nous interroger. Il y a bien d'autres questions connexes sur l'avenir du nombre des formes politiques. Est-ce qu'on va vers un monde où ce sera plutôt la synthèse et l'association qui va prévaloir, au contraire la dissociation en acteurs plus nombreux? Est-ce que l'extension du modèle national, car c'est un des points les nombreux voyages ou séjours que j'ai pu faire sur différents continents m'en ont convaincu, c'est malgré tout une vision, alors, peut-être avant-gardiste pour ceux qui la défendent, mais j'aurais plutôt tendance à dire provinciale de mon point de vue, que de croire que parce qu'on n'est jamais sorti de l'Union européenne ou qu'on a visité un peu superficiellement le reste du monde, l'imaginaire ou le projet national en ont disparu. C'est à peu près l'inverse. La pente est encore plutôt montante pour ce qui ressemble à la construction des nations et d'états-nations en dehors de l'Europe. Donc il y a là aussi une sorte d'aveuglement, et d'aveuglement à mon avis sur soi-même depuis 89, 90, 91, puisque nous avons la démonstration au cœur même de l'Union européenne que l'unification, la vraie, celle qui a eu lieu en Union européenne, c'est la réunification de l'Allemagne, et elle s'est faite sur la thématique nationale. Donc, la nation n'a pas disparu, le monde sera certainement, ne serait-ce que pour des raisons techniques, de communication instantanée, peut-être pour d'autres raisons aussi, mais je n'entre pas dans les détails, sera sûrement de plus en plus international, mais je pense qu'il ne sera pas post-national dans les décennies qui viennent. Ce n'est pas là, d'ailleurs, l'expression d'une préférence personnelle ou d'un penchant idéologique. C'est même pas la peine d'aller jusque-là, puisque c'est, à mon sens, une simple constatation. Donc il est inutile de discourir sur des choses qui ne sont pas et ne seront pas, du moins à une échéance qui nous concerne, nous, dans cette salle. Évidemment, je me garderai bien de faire des prédictions et de vous dire à quoi ressemblera la planète Terre si elle est encore habitable dans 3 siècles. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais mon idée, vous voyez, c'est plutôt de ne pas vous répéter ce qu'il y a dans le livre, mais de vous citer un certain nombre de thèmes sur lesquels j'aimerais que nous puissions discuter. Je reprends rapidement 2 de ces thèmes, peut-être, que j'ai déjà évoqués. Le premier, c'est qu'est-ce qu'une nation aujourd'hui, et pourquoi se fait-il que ce soit devenu, au fond, un objet de passion pro- ou anti-nation? Pourquoi? Tout dépend où se situe, évidemment, dans quel pays, dans quel système politique, dans quelle ère culturelle. Là, il faut embrasser tous les détails pour se faire une idée. Et chaque cas est différent. Donc, loin de moi l'idée de connaître toutes les situations. Mais je crois qu'il faut avoir à la fois une approche, un peu comme dans l'approche de la nation, une approche réaliste et aussi une approche en termes d'idéologie. L'approche réaliste, je crois, elle est très simple. On peut la dire en prolongeant les analyses d'Ernest Gellner, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur tout. Si les élites des pays développés industriels étaient nationalistes au début du XXe siècle, C'est tout simplement parce que les marchés étaient nationaux et que, au fond, l'adéquation entre leurs intérêts et leurs idées, je le dis sans du tout pratiquer une forme d'adhésion à un marxisme simpliste, mais simplement parce que, au-delà même d'une approche marxiste ou non marxiste, je crois que ce sont des faits qui sont indiscutables. Donc ces élites économiques, et peut-être par ricochet ou par parallélisme politique, étaient nationalistes à l'époque. Mais il y avait différentes formes de nationalisme, hein, n'oublions pas. Donc aujourd'hui, tout simplement, je dirais que la situation est renversée. La nation, aussi bien en termes culturels qu'en termes politiques, est devenue un obstacle dans le système mercantiliste mondial qui s'est mis en place progressivement, mais je dirais qui est devenu une sorte d'idéologie dominante depuis la chute de l'Union soviétique, avec en plus cette hybridation monstrueuse et fascinante qu'est la Chine avec son régime communiste et pratiquant une forme de nationalisme, de nationalisme, oui, mais et aussi de capitalisme un peu sauvage ou un peu brutal. Donc, premier type d'explication, nous pouvons avoir recours simplement à ces données, non pas parce que les intérêts expliquent tout, et seulement dans certaines catégories de la population, mais parce que quand même, je pense que les intérêts comptent. Mais il n'y a pas que les intérêts, hein, c'est mon deuxième point, il y a aussi les passions. Or, de ce point de vue, l'existence des nations est aussi confrontée à un autre mouvement qui, lui, n'a rien d'économique, mais qui s'est greffé sur le premier, et qui est un mouvement qu'on pourrait appeler une conception un peu différente de la démocratie, non plus la démocratie sur base nationale telle qu'elle existait depuis son apparition moderne, mais une démocratie qui devient plutôt, pour faire court, une idéologie multiculturelle, dont le centre même n'est plus l'intégration ou l'égalité de droit, voire l'égalité des pratiques, qui est toujours plus difficile que l'égalité de droit, mais beaucoup plus une forme de non-discrimination, avec un mélange tout à fait intéressant à voir, c'est que jusqu'à un certain point, il y a une fusion récente de mon premier point et du second. C'est-à-dire que même une mesure protectionniste, timide et de bon sens, va être quasiment présentée comme discriminatoire à l'égard d'un marché étranger ou d'une population. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment ces choses se mélangent, s'hybrident. Et là, nous rentrons dans des analyses qui sont peut-être un peu moins simples à mener jusqu'au bout. Alors là, je ne le cache pas, ma position n'est pas favorable au multiculturalisme normatif. Je ne parle pas du multiculturalisme de fait, que je peux apprécier comme tout le monde, comme ceux qui l'apprécient, mais au multiculturalisme parce que je considère soit qu'il est autocontradictoire, on pourra y revenir si vous le souhaitez, soit qu'il est une manière indirecte de détruire ce qu'on a pu construire sans savoir ce qu'on va mettre à la place. Et en l'occurrence, c'est bien la nation et l'État-nation. Ce n'est pas un projet ouvertement destiné à détruire l'État-nation, mais c'est très probablement ce à quoi il contribue, au moins à en fonder les bases ou la légitimité. Et dernier point, et là je m'adresse vraiment aux adversaires du nationalisme, je pense que par ailleurs, cela va aboutir à l'effet inverse de l'effet recherché. C'est-à-dire que si l'on veut véritablement affaiblir l'imaginaire et la pratique de la nation, on risque au contraire d'avoir des nationalismes nouveaux, sans doute peu conquérants, mais mécontents, à l'agressivité rentrée, et on aura au fond exactement le contraire de ce qu'on recherche. Donc, d'où le titre du livre, la nation est aussi un remède contre un certain type de nationalisme. Alors, comme j'ai dit qu'il y avait plusieurs types de nationalisme, bien sûr, le nationalisme d'un Gandhi est un nationalisme à la fois décolonisateur, non violent, et Gandhi emploie les deux termes simultanément pour se décrire lui-même, je suis cosmopolite et je suis nationaliste, car le cosmopolitisme n'est possible qu'entre des individus et entre des nations, puisqu'il faut une médiation entre l'individu et l'humanité, et la meilleure des médiations possibles, c'est une nation démocratique. Donc voilà, si je voulais donner un tour positif à ma présentation, je dirais que c'est le modèle qui me semble le plus vivable. Non pas qu'il soit sans défaut, mais c'est le modèle qui me semble le plus vivable. Le second point que je voulais peut-être aborder avant de terminer, d'en finir avec cette présentation que je veux assez courte, c'est la relation dans les polémiques entre la nation et la guerre. Alors, la nation, c'est la guerre, et le nationalisme, c'est la guerre à outrance. Alors, si l'on observe bien les choses, la vraie variable, ce n'est pas la nation, c'est la démocratie. Hein, puisque les régimes démocratiques, au sens fort du terme, quand ils n'ont plus d'empire colonial, et quand ils ont une société réellement pacifiée, avec un suffrage universel, une véritable vie démocratique, on pourra revenir sur ce qu'est une véritable démocratie, ce n'est certainement pas les élections. Les élections, c'est le résultat, ce n'est pas le point de départ d'une démocratie. Ces régimes-là ne se font pas la guerre, il n'y a aucun exemple. Même quand ils sont des nations, et surtout quand ils sont des nations, puisque les démocraties modernes sont toutes, ou quasiment toutes, nationales. Donc ça pose quand même un problème, ce cliché, le nationalisme, c'est la guerre, comme l'a dit le président français au Conseil de l'Europe, c'est quand même relativement factuellement faux. Ce qui est vrai, et c'est une des tragédies peut-être de l'histoire de la forme nationale, c'est que cette forme nationale, elle s'est beaucoup plus facilement répandue que la démocratie elle-même, qui était née dans le même berceau. C'est-à-dire qu'on a pu, de façon relativement hypocrite, quand on était un dictateur, progressiste ou réactionnaire d'ailleurs, s'emparer de la forme nationale, comme on s'est emparé de la conscription, par exemple, hein, qui aggrave évidemment considérablement l'aspect tragique des guerres, en n'en faisant plus un choc entre armées professionnelles, mais véritablement une sorte de tragédie pour les populations et civiles et pour les armées, comme on l'a vu dans les deux guerres mondiales et même ailleurs. Donc on se trompe un peu de variable, c'est sur ces questions que j'ai voulu attirer l'attention et essayer de clarifier autant que possible le débat. Et quand je disais que ça avait un aspect constructif, c'est parce que je vous propose vraiment à travers cette réflexion des instruments, des repères historiques qui me semblent, après longue réflexion et après avoir affronté également des objections et des critiques venues d'autres personnes ou que je m'adressais à moi-même, qui me semble avoir résisté au test, au premier test en tout cas. Et deuxièmement, je voudrais aussi, je ne renonce pas à la discussion et à la polémique civilisée, et mettre un certain nombre de clichés en question, ou en tout cas montrer en quoi ils sont particulièrement contradictoires ou parfois de mauvaise foi. Je reviens sur mon dernier point pour donner un exemple illustrant ce que je viens de dire. La plupart des démocraties ne sont pas des superpuissances. Donc quand une superpuissance, même si elle est démocratique, se conduit comme une superpuissance, ce n'est pas parce qu'elle est démocratique ou nationale, c'est parce qu'elle est une superpuissance. Voilà un premier exemple. Donc juger du modèle de l'État-nation uniquement sur le comportement des États-Unis me semble légèrement biaisé. Et d'autre part, j'ajoute que ça ne réfute pas ce que je disais, c'est-à-dire que quand les démocraties font des guerres, les démocraties nationales ou les nations démocratiques font des guerres, c'est soit parce qu'elles sont attaquées, soit parce qu'elles se conduisent en superpuissance, et encore n'ont jamais attaqué des régimes que je qualifierais quant à moi de démocratiques. J'aime bien cet exemple. Si les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, c'est parce que nous étions dans une situation de guerre froide, avec le soutien d'un empire, l'empire soviétique, aux combattants vietnamiens. Point 1. Point 2, c'est parce que les États-Unis étaient une démocratie qu'avec une superpuissance militaire, ils ne pouvaient pas gagner cette guerre contre la volonté de leur population, et c'était une guerre qui, du point de vue démocratique, n'était pas justifiable. Leur patrie n'était pas attaquée ni en danger, ni leur mode de vie. Et troisièmement, c'était bien aussi une guerre patriotique de la part des Vietnamiens, puisqu'ils ont ensuite fait la guerre contre le régime communiste chinois et qu'ils ont également gagné cette guerre. Donc, vous voyez bien que Voilà un exemple relativement précis où ce qu'on nous dit habituellement sur les relations entre guerre, nation et démocratie sont un peu plus complexes que le cliché habituel.